Bien, nous pouvons reprendre notre cheminement et, comme je le disais, la deuxième forme d'incarnation d'une œuvre que l'on devrait introduire dans une géographie littéraire et donc établir chronologie et cartographie, c'est lorsque les œuvres passent d'un genre à un autre, et dans le cas qui nous intéresse ici, lorsque des romans deviennent des pièces de théâtre. Ce serait tout à fait vrai pour le XVIIIe siècle, et on pourrait suivre la série des adaptations théâtrales de Pamela, par exemple, de Richardson. Mais le Quichotte, de nouveau, est un exemple spectaculaire, puisque là, il y a une très grande rapidité de l'appropriation dramatique du texte, soit de nouvelles novelles qui sont inscrites à l'intérieur de l'histoire de Don Quichotte, soit de l'intrigue principale, c'est-à-dire des aventures et mésaventures du chevalier errant. Et dans des cours précédents ou même des études publiées, j'avais essayé de suivre ces premières appropriations théâtrales qui sont le Don Quichotte sans être de Cervantes. Dès 1605-1606, une comédia de Guillén de Castro est jouée en Espagne, Don Quixote de la Mancha. 1612 ou 1613, plus vraisemblablement, le Cardenio attribué à Shakespeare et Fletcher joué à Londres. En 1628, à Paris, un auteur qui s'appelle Pichou, Les Folies de Cardenio. Et il y a cette première série pouvant s'achever en 1639 et 1640 avec les deux parties d'un Don Quichotte de la Manche, d'un autre auteur français, Daniel Guérin de Bouscal. Donc ça serait une première série, on pourrait évidemment la poursuivre jusqu'au XVIIIe, XIXe ou XXe siècle. Ce qui est intéressant, comme vous le voyez par rapport au fait, c'est le fait que le théâtre, lorsqu'il s'approprie le Don Quichotte, s'approprie soit explicitement Cardenio, les folies de Cardenio, soit implicitement, parce que aussi bien dans la pièce de Guillén de Castro comme dans les pièces de Guérin de Bouscal, surtout dans le cas de Guillén de Castro, l'intrigue qui est représentée principale est celle des amours de Cardenio, c'est-à-dire d'une nouvelle à l'intérieur du roman, plus que l'intrigue principale des aventures de Don Quichotte. Donc il y a une appropriation, sans doute parce qu'il est plus aisé de transformer en une pièce de théâtre de 2 heures des nouvelles qui ont déjà une certaine cohérence. C'est encore plus facile lorsqu'il s'agit des 3 chapitres qui, dans le Quichotte, sont consacrés à la nouvelle du curieux impertinent. Ça l'est moins mais possible lorsque l'on s'empare de la nouvelle, entre guillemets, de Cardenio et des jeunes amoureux telle qu'elle est racontée à travers différents épisodes à l'intérieur du roman, mais s'adapter, s'approprier le Don Quichotte comme tel dans l'immensité de son déploiement est une tâche évidemment plus compliquée, ce qui explique que au cours du XVIIe siècle, les pièces de théâtre s'emparent principalement des nouvelles à l'intérieur de l'histoire et considèrent Don Quichotte à travers une interprétation qui est celle du personnage comique, qui peut être situé dans les marges des actes d'une pièce entièrement consacrée à une intrigue sentimentale. Dans le cas de la commedia, finalement, Don Quichotte devient une incarnation d'un des personnages typiques de la commedia, qui est le gracioso de commedia, celui qui doit faire rire, le valet ou le bouffon qui fait rire. Alors que, vous l'avez entendu, dans le cas des appropriations festives, soit religieuses, soit aristocratiques, soit carnavalesques, on a affaire à une appropriation de Don Quichotte, le personnage et de ceux qui l'entourent, et les nouvelles inscrites dans cette trame, la nouvelle du curieux impertinent, la nouvelle de Cardenio, sont absentes ou à peine présente, peut-être, vous vous souvenez qu'à Paosa, il y avait une seule mention de de l'infante Micomicona, qui est un des déguisements de Dorothea, qui appartient à cette novella, entre guillemets, de Cardenio. Donc un contraste dans l'appropriation, ce qui est aussi un élément intéressant pour comprendre la géographie des œuvres. Qu'est-ce qui, dans l'œuvre, est l'objet d'une appropriation selon les différents genres et les différents registres de discours. Et là, le contraste pour cette première partie du XVIIe siècle est très net entre les nouvelles appropriées par le théâtre et le héros approprié par les fêtes. Une seconde séquence pourrait peut-être, je l'avais évoqué dans des cours il y a quelques années, une seconde séquence pourrait s'attacher à la seconde partie du Don Quichotte, qui est une partie souvent négligée par les analyses. Parce que dans la seconde partie de Don Quichotte, il y a de multiples aventures. Il y a d'ailleurs ce déplacement d'un Don Quichotte chevalier militaire à un Don Quichotte chevalier de cour, lorsqu'il y a les chapitres du duc et de la duchesse. Mais il y a surtout une intrigue qui a attiré l'appropriation théâtrale, qui est le moment où, dans ce contexte de Don Quichotte chez le duc et la duchesse, dont Sancho Panza est nommé gouverneur d'une île imaginaire, puisqu'il ne s'agit pas d'une île, mais qui est l'île de Barataria. Et les épisodes de Sancho gouverneur sont devenus des éléments fondamentaux pour de multiples genres théâtraux au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et j'en avais suivi les étapes, qui commencent en 1641 avec la troisième des pièces de Guérin de Bouscal appuyé sur le Quichotte et qui a pour titre le gouvernement de Sanche. Puis, on voit cette série d'épisodes qui sont à la fois ridicules, grotesques, comiques et en même temps implicitement un discours sur l'exercice du pouvoir. On la voit se diffuser à la fois dans le genre de la comédie à la française, 1694 avec Dufresny, 1712 avec Dancourt, et on la voit aussi devenir un élément du théâtre de la foire à Paris, avec des pièces de Bellavoine ou de Fuselier, et qui, comme dans le théâtre de la foire, utilisent les ressources permises au théâtre de la foire, c'est-à-dire l'absence de dialogue, des écriteaux sur lesquels sont résumés ou donnés les éléments essentiels de l'intrigue, et donc des séries parallèles de gouvernement de Sancho Panza. Toujours le titre, c'est le gouvernement de Sancho Panza, Sancho Panza gouverneur, en la comédie et le théâtre de la foire. Et la série se pourrait continuer à travers, franchissant les frontières, si le point de départ est fondamentalement français, avec, en 1727 et 1733, deux opéras comiques qui sont donnés à Vienne, à la cour de Vienne, avec les partitions de Caldara, et qui ont pour titre le premier Don Quixote in corte de la duquesa, Don Quixote à la cour de la duchesse, et le deuxième Sancho Panza, governatore de l'isola Barataria, gouverneur de l'île de Barataria. Et pourquoi je m'étais intéressé à tracer cette série? Non seulement parce qu'évidemment, on a plus d'attrait, comme je le disais, sur les appropriations de la première partie avec ses figures obligées, à commencer par les moulins à vent, que sur la seconde partie, et d'autre part parce que cette série me conduisait à une pièce que j'avais étudiée de manière infiniment plus précise, qui est une pièce de Antonio José da Silva, donc un dramaturge né à Rio de Janeiro au début du XVIIIe siècle, transporté parce que converso, parce que d'une famille juive convertie, mais dénoncé à l'Inquisition à Lisbonne, et après deux procès d'inquisition pour ses parents, puis pour lui-même, choisissant une carrière dramaturge alors qu'il était avocat et écrivant des pièces pour le théâtre des marionnettes du Beiro Alto, du quartier haut de Lisbonne. Et la première des pièces qu'il écrit en 1733 est un Don Quichotte de la Mancha, un Don Quichotte de la Mancha, et qui est une adaptation exclusivement de la seconde partie de la, du texte de Cervantes. On a donc une possibilité là d'une série où l'on voit qu'à la fois les frontières sont franchies, les genres sont multiples et la matière qui est appropriée est relativement homogène puisqu'il s'agit de ces chapitres de la seconde partie consacrée à Sancho Panza comme gouverneur. Alors je termine ce premier grand point, avant de passer à certaines cartes, sur la géographie littéraire. Parce qu'il me semble que Franco Moretti a ouvert une perspective analytique extrêmement intéressante, extrêmement riche, déjà sous ce premier aspect, c'est-à-dire la littérature dans l'espace, mais peut-être qui nous conduit à nous interroger de quoi est la géographie de la littérature. Je crois qu'on ne peut pas l'identifier immédiatement avec d'autres cartographies parce que ce qui est cartographié n'est pas une entité stable, n'est pas quelque chose qui est répété à l'identique. La géographie du Don Quichotte n'est pas la cartographie d'une œuvre toujours identique à elle-même, mais elle est une cartographie d'une pluralité de réécritures, les unes pouvant être limitées lorsqu'il s'agit d'un passage d'une édition à l'autre et donc d'enregistrer des variantes textuelles qui, dans le cas de Don Quichotte, ne sont pas extrêmement nombreuses, sauf les corrections qui sont apportées avec l'édition de 1607 de Bruxelles sur cette anomalie des oublis de Don Quichotte qui a fait voler l'âne de Sancho, enfin dérober l'âne de Sancho par Ginés de Passamonte et a oublié cela et du coup l'âne continue à apparaître alors qu'il est théoriquement disparu. Mais ces variantes sont limitées et restreintes. Néanmoins, elles marquent une première mobilité de ce qui est cartographié, Don Quichotte en castillan. Évidemment, la mobilité devient plus grande et l'instabilité plus grande lorsque l'on passe de Don Quichotte en castillan en Don Quichotte dans d'autres langues. Mais il me semble que l'on peut aussi introduire cette mobilité beaucoup plus forte encore et qui est la mobilité liée avec des formes d'incarnation, donc du coup d'interprétation et d'appropriation de l'œuvre. Et ici, on en a vu la série, les fêtes, les illustrations, et éventuellement, qui sera très important au XVIIIe siècle, les abrégements. On voit donc qu'il y a une tension ici, par laquelle je voudrais terminer ce point, entre d'un côté les reconfigurations multiples, instables, mobiles d'une œuvre, et d'autre part le fait que cette œuvre est toujours identifiable ou désignée comme telle, Don Quichotte de la Manche. Et cette tension est un défi, est un problème, évidemment, puisque d'un côté, on a de multiples franchissements de frontières entre genres, entre publics, entre langues, et que de l'autre côté, il y a une stabilité de l'identification qui fait reconnaître immédiatement Don Quichotte comme Don Quichotte. Cette tension va être, au cours du XVIIIe siècle, transformée évidemment à l'intérieur de la catégorie de propriété littéraire, qui suppose que l'on puisse identifier une œuvre toujours identique à elle-même, puisque s'il y a propriété, il y a propriété sur quelque chose qui est immobilisé. On ne pourrait pas imaginer, par exemple, la propriété d'un champ dont les limites, comme dans un tableau de Dali, seraient constamment modifiées, ou d'un immeuble qui serait constamment transformé. Donc il faut que, pour que l'œuvre littéraire soit sujette au même droit et au même type de propriété que les biens immobiliers, on lui donne une stabilité. Cette stabilité, elle n'est pas matérielle, puisque l'œuvre peut être éditée dans différentes façons, portée par différents supports, elle réside dans ce qui fait qu'elle est toujours identique à elle-même, même lorsqu'elle change, c'est-à-dire le sentiment, le langage, l'intrigue, etc. Donc le XVIIIe siècle va donner une formulation juridique à cette tension entre la pluralité des reconfigurations et la stabilité de la désignation. Auparavant, pour l'époque qui m'a intéressé jusqu'ici, effectivement, ce qui est un fondamental, c'est ce jeu des reconnaissances qui font retrouver l'œuvre dans sa stabilité, le Don Quichotte de Cervantes, à l'intérieur de ces incessantes métamorphoses. En dehors d'une catégorie juridique, qui est celle du copyright, qui protège cette œuvre contre les contrefaçons, dans le registre uniquement d'une perception esthétique d'une œuvre toujours reconnue, alors même qu'elle est constamment transformée dans sa matérialité textuelle et transformée dans ses incarnations corporelles. Alors, à partir de cette analyse des espaces des œuvres, on peut poursuivre l'étude et, entrant dans les livres eux-mêmes, reconnaître les espaces de la fiction. Et ces espaces de la fiction ont deux formes d'inscription. L'une qui est discursive, les lieux de la fable, les lieux des trajectoires, les lieux des déplacements. Donc une géographie mobile, dynamique, à l'intérieur des œuvres elles-mêmes, qui peut être une géographie des trajets ou qui peut être une géographie des contrastes, ville et campagne, Paris et la province, la capitale et la province, ou bien géographie des trajectoires, celle des personnages des romans picaresques, Don Quichotte lui-même. Et puis, il y a une deuxième forme d'inscription qui n'est pas dans le discours, mais qui est dans la matérialité du livre, avec la présence de cartes dans les livres. Et c'est ce à quoi je voudrais commencer à m'intéresser maintenant. C'est un thème immense, évidemment, celui des cartes à l'intérieur des livres. On peut rappeler en préambule que c'est un thème qui a plusieurs dimensions. D'abord, il y a une première dimension que j'évoquais d'un mot la fois dernière, qui est une dimension technique, conséquemment économique, puisque introduire des cartes dans un livre est coûteux. Et d'autant plus coûteux qu'on préfère, comme on le fait à partir de la fin du XVIe siècle, la technique de la gravure sur cuivre pour les illustrations, mais aussi pour les cartes, à la technique de la gravure sur bois. Une gravure sur bois peut être introduite à l'intérieur de la composition typographique, sans difficulté, et on imprime avec la même presse le texte et l'image. Lorsque l'on a commencé à préférer, pour des raisons esthétiques ou pour des raisons de précision, la gravure sur cuivre, qui est infiniment plus subtile et exacte, la chose se complique, puisqu'on ne peut pas introduire une gravure sur cuivre dans une composition typographique. La gravure sur cuivre doit être imprimée à partir d'une presse de l'atelier de gravure en taille douce, et donc suppose deux presses, deux ateliers et deux impressions de la même forme pour le texte avec la presse de l'imprimerie et pour l'image avec la presse de l'atelier en taille douce. On voit très bien ça dans les planches de l'encyclopédie où il y a une séparation entre atelier d'imprimerie et atelier de gravure en taille douce. Du coup, le coût, si j'ose dire, augmente considérablement avec un livre dans lequel il y a des images à partir de la gravure sur cuivre, ce qui explique pourquoi, dans de très nombreux ouvrages qui n'ont pas un budget considérable, ces gravures sur cuivre vont trouver des espaces propres, c'est-à-dire le frontispice ou bien des hors-textes, et donc ne vont plus être insérés à l'intérieur de la composition typographique avec la liberté et la profusion que permettait la gravure sur bois, qui reste la forme dominante pour l'illustration des livres les moins coûteux, on va dire, populaires. Donc c'est une première question économique et matérielle. La deuxième question, qui là se pose plus particulièrement pour les cartes, parce que ce que je viens de dire, ça vaut pour des cartes ou pour n'importe quel type d'image. Mais pour les cartes se pose un deuxième problème, qui est le format de la carte, qui ne s'insère pas facilement dans les formats in 12, in octavo, voire même in folio. Donc, la carte prend souvent la forme d'un dépliant qui est introduit dans le livre au moment de sa reliure. Il peut l'être comme avant le livre, ou bien elle peut être introduite entre deux pages et se déplier pour le lecteur. Du coup, on voit qu'il y a une autre possibilité qui s'ouvre, c'est la possibilité de la variation. Et pour chaque exemplaire d'une édition dans laquelle il y a une carte en forme de dépliant, il serait sans doute intéressant de mener un recensement de ces exemplaires pour voir si la carte est toujours à la même place et si d'ailleurs elle est toujours présente dans tous les exemplaires conservés. Et puis, il y a une troisième dimension de ce rapport de la présence des cartes dans les livres. C'est une dimension interprétative, herméneutique. Comment contribue-t-elle à la production du sens ? Avec ces deux grands modèles opposés, l'un qui consiste à penser que la carte et le texte disent la même chose avec des moyens différents, ou un autre modèle selon lesquels la carte, mais aussi l'illustration, l'image, dit ce que le texte ne peut pas dire, ce qui était la justification des planches dans l'encyclopédie, c'est-à-dire de montrer la simultanéité d'opérations qu'un discours ne peut qu'énoncer dans la succession. Et donc, ou pour d'autres raisons, le fait qu'on peut montrer, par exemple dans des illustrations d'œuvres théâtrales du XVIIe siècle, on peut montrer des scènes qui sont irreprésentables sur la scène, à la fois par les moyens qu'elles supposeraient ou parce qu'elles seraient contraires à la bienséance. Donc, là, les deux modèles, le modèle de la correspondance et le modèle de l'addition, se trouve posé dans ce rapport entre l'image, quelle qu'elle soit, y compris la carte, et le texte. On voit donc qu'il y a là une série de problèmes communs à tous les livres qui ont accueilli des cartes, des problèmes techniques et économiques, des problèmes matériels et morphologiques, et des problèmes herméneutiques. Alors, évidemment, ensuite, ce qui devient fondamental, c'est de différencier les différents genres qui reçoivent des cartes. Je laisserai de côté peut-être ce qu'il y a de plus massif, évidemment, c'est-à-dire dès les incunables, ou peut-être a fortiori le XVIe siècle, la présence des cartes dans tous les genres qui prétendent à représenter le monde. Évidemment, lorsque les cartes deviennent livres avec les atlas, ou la présence des cartes dans des cosmographies, des histoires universelles, des récits de voyage, des guides de voyage, ou des chroniques historiques. Il y a là une immense bibliographie sur la présence des cartes dans ces genres qui ont pour point commun de donner une représentation par l'image et par le discours du monde tel qu'il fut ou tel qu'il est. Et puis, ce qui nous intéressera plutôt aujourd'hui et la fois prochaine, c'est-à-dire les cartes dans des œuvres de fiction. La géographie littéraire au sens propre, la mise en géographie, donc en cartographie, de la littérature. On pourrait dire, j'y reviendrai peut-être dans ce cours, qu'il y a des livres qui font le passage de l'un à l'autre. Par exemple, la première édition de l'Utopie de Thomas More en 1518, dans laquelle il y a une carte, qui est donc une carte qui a un statut de passage, puisque c'est la carte d'un territoire, mais dans ce cas d'un territoire imaginé. Mais d'un autre côté, ce n'est pas une carte allégorique, ce n'est pas une carte qui donne à voir sous une forme particulière des sentiments, des valeurs, des vertus, des idées. Et donc, on aurait une attention peut-être à maintenir sur l'utopie de More, puisque après l'édition de 1518 de Froben à Bâle, on a toute une série d'éditions avec cartes, et c'est d'autre part un des textes qui a le plus franchi des frontières entre des langues et des sites. Mais je vais me centrer pour conduire le raisonnement là où il doit aboutir, c'est-à-dire pourquoi et comment ont été introduites dans des éditions de Don Quichotte à la fin du XVIIIe siècle des cartes qui représentent les trois salidas, les trois sorties de Don Quichotte, de voir une sorte d'histoire, et d'abord française, de cette présence de cartes dans les livres. La première de ces cartes, alors je ne sais pas si... Voilà. La première de ces cartes, et évidemment, tout le monde la connaît, ou tout le monde pense l'avoir vue, l'avoir connue, c'est en 1654, dans la première édition du roman de Madame de Scudéry, Clélie, Histoire romaine, cette représentation de la carte de Tendre. Et ici, on en a une version qui est une version avec... coloriage de la carte. Je rappelle que ce roman, La Clélie, est publié par le libraire parisien Augustin Courbet, avec sur la page de titre le nom de Monsieur de Scudéry, gouverneur de Notre-Dame de la Garde. Et il avait été gouverneur de Marseille durant un temps. Et ce nom de Monsieur de Scudéry dissimule en fait la véritable identité partielle ou totale de l'auteur, qui est sa sœur, Madame de Scudéry. Pourquoi, ici, ça serait une question entière, mais d'une part, le fait de la dissimulation de la femme comme écrivain qui peut correspondre à la fois à des exigences sociales, surtout même si, comme les Scudéry, elles ne sont pas d'une très haute noblesse, mais d'une petite noblesse, néanmoins, apparaître avec la profession d'auteur est contradictoire avec ce statut social, doublé par aussi la dissimulation du nom féminin. Donc il y a là une dissimulation qui peut être liée à des raisons, on pourrait dire, directement sociales. Il y a aussi le fait que peut-être aussi ce nom de Monsieur de Scudéry dissimule quelque chose qui est les processus même de production de ce roman, qui est une écriture, on va dire, plus collective, issue des jeux, des conversations, du salon de Mademoiselle de Scudéry, qui était le salon qu'elle tenait les samedis dans différents lieux de Paris, soit chez elle, soit dans une demeure d'une amie, et dans lesquels étaient pratiqués de très nombreux jeux littéraires, de conversations, et qui peuvent être considérés aussi comme une matrice de la construction du roman La Clélie. On peut suivre précisément cette activité de sociabilité littéraire à travers les chroniques du samedi, puisque étaient enregistrés dans des registres intitulés Chroniques du samedi des comptes rendus de ce qui était l'activité des différentes rencontres. Là, le livre est dédié à Mademoiselle de Longueville. Il commence en 1654, va être un succès considérable, accumulant les volumes après les volumes pour arriver finalement à 10 volumes lors de la dernière partie, en 1660. Donc une publication est tirée en 10 volumes sur 6 années et au total plus de 7000 pages, avec une réédition en 1658-1661. Alors ce qui me retient aujourd'hui, c'est ceci, c'est-à-dire l'introduction, sans doute comme une novation, on peut en discuter, on en discutera, mais sans doute comme une novation d'une carte, la carte de Tendre, à l'intérieur de la première partie, et en particulier du livre premier de la première partie. Et cette insertion de la carte de Tendre à l'intérieur du texte, on peut la suivre doublement dans le texte lui-même, puisqu'il y a une mise en scène ou une mise en texte de la composition de cette carte à l'intérieur de l'intrigue, et on peut la suivre aussi par ce qu'il en est dit dans les chroniques du samedi de Pélisson, qui raconte aussi comment l'invention est advenue. On peut suivre dans le texte lui-même, donc ce livre premier, et on a la chance d'avoir une édition de poche de la Clélie, ce qui évite peut-être de manier les 7100 pages du texte. Première partie, livre premier, cette édition a été établie par Delphine Denis, qui évidemment a gardé quelques fragments du texte, mais pour le livre premier, les plus significatifs. Et vous avez dans l'édition du livre de poche la carte de Tendre, mais dans sa version sans couleur. Alors, dans ce texte, qui d'ailleurs est un texte tout à fait passionnant, qui a été étudié par toutes les spécialistes de l'histoire de l'écriture féminine, de la préciosité, de l'esthétique de la galanterie. Dans ce texte, on a la fiction la suivante. C'est un narrateur célèbre qui s'adresse à la princesse des Léontins. Et c'est un double, évidemment, dans le texte lui-même, du fait que le texte écrit par monsieur ou mademoiselle de Scudéry s'adresse à mademoiselle de Longueville. L'objet du récit, en son commencement, c'est la rivalité entre Aronce et Horace pour l'amour de Clélie, qui est la fille d'un noble romain, Clélius, qui s'est réfugié à Capoue pour fuir la tyrannie de Tarquin. Donc on est dans un univers qui est l'univers du monde romain du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui est le moment du passage de la monarchie des Tarquins à la République romaine. Et Clélie, à Capoue, mais aussi à Carthage, puisqu'il y a une géographie interne au roman, qui serait d'ailleurs assez proche des géographies des romans hellénistiques, est aussi aimée par le prince de Carthage et par le prince de Numidie. Mais laissons là cette intrigue pour la conversation qui nous mène à la carte de Tendre. Le roman est fondé très largement sur des conversations qui seraient comme le double dans l'écriture des conversations des samedis de Mademoiselle de Scudéry. Et ces conversations portent sur des distinctions subtiles que l'on peut établir entre amour et amitié, entre amour et adoration, entre amitié ordinaire et amitié tendre, puisqu'une catégorie fondamentale qui est introduite par dans un discours de Clélie est justement cette catégorie qui va s'identifier avec l'esthétique de la galanterie et qui est la catégorie de tendresse, qui permet d'opposer à l'intérieur de l'amitié des amitiés ordinaires avec des amitiés qualifiées de tendre. Voilà ce qu'explique Clélie. La tendresse a cela de particulier qu'elle donne à l'amitié même je ne sais quel caractère de galanterie qui la rend plus divertissante. Elle inspire la civilité et l'exactitude à ceux qui en sont capables. Et il y a une si grande différence entre un tendre ami et un ami ordinaire qu'il n'y en a guère davantage entre un ami tendre et un amant. Et elle définit ensuite la tendresse comme une certaine sensibilité qui transforme la relation d'amitié en amitié tendre. Et dans cette conversation, l'un de ceux qui veut devenir son amant, son amoureux, Aronce, déplace sur l'amour cette distinction établie sur l'amitié en opposant l'amour sans tendresse et la tendresse amoureuse. Donc ce sont là de très longues conversations, très subtiles sur la distinction entre des sentiments. Et dans ces conversations arrive un Romain, Herminius, qui est accueilli dans la petite société de Capoue, réunie autour de Clélie et de sa mère, qui tient salon et qui s'appelle Sulpici. Et la conversation reprend sur ces thèmes-là, et elle reprend avec une subtile distinction qu'établit Clélie, à qui on a demandé d'expliquer ce qu'est la tendresse, une subtile distinction qu'elle fait entre sept catégories d'amitié. « S'il est vrai, dit-il, que je n'en parle pas mal de la tendresse, répliqua-t-elle, c'est parce que mon cœur m'a appris à en bien parler et qu'il n'est pas difficile de dire ce que l'on sent. Mais il ne faut pas conclure de là, ajouta cette belle personne, que tous ceux que j'appelle mes amis soient de mes tendres amis, car j'en ai de toutes les façons dont on en peut avoir. En effet, j'ai de ces demi-amis, s'il est permis de parler ainsi, qu'on appelle autrement d'agréables connaissances. J'en ai qui sont un peu plus avancés, que je nomme mes nouveaux amis. J'en ai d'autres que j'appelle simplement mes amis. J'en ai aussi que je puis appeler des amis d'habitude. J'en ai quelques-uns que je nomme de solides amis et quelques autres que j'appelle mes amis particuliers. Mais pour ceux que je mets au rang de mes tendres amis, ils sont en fort petit nombre et ils sont si avant dans mon cœur qu'on n'y peut jamais faire plus de progrès. Cependant, je distingue si bien toutes ces sortes d'amitiés que je ne les confonds point du tout. » Donc, vous le voyez, une subtile distinction entre sept catégories d'amis. Et Herminius lui demande où il est, lui, dans cette hiérarchie complexe de l'amitié. Et il lui pose la question, « Et de grâce, aimable Clélie, dites-moi où j'en suis, je vous en conjure. Vous en êtes encore à nouvelle amitié, reprit-elle en riant, et vous ne serez pas longtemps plus loin. Du moins, répliqua-t-il en souriant aussi, bien qu'elle, ne serais-je pas marie de savoir combien il y a de nouvelles amitiés à tendre ? À mon avis, reprit Aronce, peu de gens savent la carte de ce pays-là. » Et donc, du coup, il y a une introduction du terme de carte, mais dans un sens qui est un sens figuré. Il s'agit ici, comme on trouve dans les dictionnaires du XVIIe siècle, la carte, c'est de connaissance des intrigues, des affaires, de ce qui est des secrets. Et ce qui est évoqué là, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour passer de nouvelle amitié à tendre amitié. Mais on voit que quand le mot carte est introduit dans ce dialogue, il est introduit dans ce sens figuré qu'on retrouve par exemple plus tard dans le dictionnaire de Furtière. Alors Clélie répond à Herminius. Peut-être vous imaginez-vous qu'il n'y a qu'une petite promenade de nouvelle amitié à tendre. C'est pourquoi, avant que de vous y engager, je veux bien vous promettre de vous donner la carte de ce pays, car on croit qu'il n'en a point. Et donc, du coup, on a cette demande qui est non seulement celle d'Herminius, mais de tous les autres personnages, Aronce, Horace, Célère, son amante Phénice. Il s'agit de donner la carte d'un pays dont personne n'avait fait encore le plan. Mais toutes ces interventions traduisent une attente qui est une attente de la carte au sens figuré, dans un sens textuel. Et Célère explique, nous ne nous imaginons... Alors, Il demande toute la carte d'un pays dont personne n'avait encore fait de plan. Nous ne nous imaginâmes pourtant alors autre chose, sinon que Clélie écrirait quelque agréable lettre qui nous instruirait de ses véritables sentiments. Et donc, l'attente, c'est celle d'une lettre dans laquelle seraient expliqués les passages, les trajectoires qu'il faut faire pour passer d'un statut d'ami à un autre statut d'ami, et en particulier pour Herminius, de passer de nouvel ami à tendre ami. Et c'est le basculement qui nous introduit à ce que vous voyez, c'est le moment où Herminius rappelle sa promesse à Clélie de lui donner la carte de ce pays d'amitié, et où Clélie, à l'imagination, de ne pas se contenter de la lettre ou du billet, genre par ailleurs fondamentaux pour cette sociabilité galante, et à l'intérieur du roman sont insérées de très nombreuses transcriptions des billets ou des lettres échangées, et dans les premières éditions d'ailleurs avec un changement dans le caractère typographique que les éditions modernes perdent. Mais Clélie a une autre idée. Il lui passa dans l'esprit une imagination qui la divertit elle-même. Elle pensa qu'elle pourrait effectivement divertir les autres, si bien que sans hésiter un moment, elle prit des tablettes et écrivit ce qu'elle avait si agréablement imaginé, et elle l'exécuta si vite qu'en une demi-heure, elle eut commencé et achevé ce qu'elle avait pensé. Après quoi, joignant un billet à ce qu'elle avait fait, elle l'envoya à Herminius, avec qui Aronce et moi étions alors. Mais nous fûmes bien étonnés lorsque Herminius, après avoir vu ce que Clélie lui venait d'envoyer, nous fit voir que c'était effectivement une carte dessinée de sa main qui enseignait par où on pouvait aller de nouvelle amitié à tendre et qui ressemblait tellement à une véritable carte qu'il y a des mers, des rivières, des montagnes, un lac, des villes, des villages. Et pour vous la faire voir, madame, voyez, je vous en prie, une copie de cette ingénieuse carte que j'ai toujours conservée soigneusement depuis cela. Et donc l'introduction de la nouveauté, c'est le passage de la carte dans son sens figuré à la carte dans son sens littéral, de véritable carte, que Clélie dessine en une demi-heure sur les tablettes. Et ici, je voudrais évidemment porter attention sur ce mot « tablette ». Très souvent, quand on lit ces textes, on n'a pas attention, il n'y a pas de notes, par exemple, dans cette édition. Or, en fait, c'est très important, parce que ce que fait Clélie, c'est d'écrire, mais en fait dessiner, sur des tablettes, cette carte qu'elle va accompagner d'un billet qui est remis à Herminius et qui lui en donne le mode d'emploi qu'on pourra discuter la fois prochaine. Mais la question, c'est qu'est-ce que c'est que des tablettes au XVIIe siècle ? Il n'en serait resté des traces dans les vocabulaires, notées sur ces tablettes, effacées de ces tablettes, rayées de ces tablettes. Mais les tablettes sont une forme très particulière de support de l'écriture ou du dessin. Si l'on prend le dictionnaire de l'Académie en 1694, quelques années, 40 ans après, c'est le texte de la Clélie. Voilà comment est défini tablette, feuille d'ivoire, de parchemin, de papier préparé, etc., qui sont attachés ensemble et qu'on porte ordinairement dans la poche pour écrire les choses dont on veut se souvenir. Donc, tablette, sens d'un support de l'écriture, facilement transporté, est faite par une série de feuilles qui sont attachées les unes avec les autres, ces feuilles pouvant être d'ivoire, de parchemin et de papier préparé. On peut remonter au dictionnaire de Furtière de 1690, où le mot apparaît aussi dans la définition de style, stylet, une pointe avec laquelle on écrit, style, poinçon ou grosse aiguille dont on se sert encore aujourd'hui pour écrire dans des tablettes d'ivoire ou de papier préparé. Et cette idée est poursuivie, par exemple, dans la définition de l'encyclopédie des tablettes. Les tablettes que nous employons pour écrire sont une espèce de petit livre qui a quelques feuilles d'ivoire, de papier, de parchemin préparé sur lesquels on écrit avec une touche, c'est-à-dire un stylo, ou un crayon, les choses dont on veut se souvenir. Et vous voyez qu'on est donc devant un objet de la culture écrite, sur lequel on n'écrit pas avec une plume ou de l'encre, qui est formé soit par de l'ivoire, soit par du papier ou du parchemin préparé, donc ce n'est pas un papier ordinaire, et l'on écrit avec un crayon ou un stylo, et ce qui permet, c'est implicite dans ces définitions, d'effacer et écrire de nouveau. Et du coup, on éclaire cette question de ces tablettes à partir d'une recherche que l'on avait faite il y a quelques années avec un collègue anglais, Peter Stalybras, sur ces objets de la culture écrite qui, au XVIe et XVIIe siècle, mais jusqu'au XVIIIe siècle, définition de l'encyclopédie, permettent d'écrire et d'effacer, permettent d'écrire avec un stylet ou un crayon et non pas nécessairement avec une plume et de l'encre, et donc, du coup, permettent d'écrire infiniment plus librement ou dessiner, comme le fait Clély, puisque la technologie de l'écriture qui suppose l'encre et la plume est une technologie lourde. Il y faut des encriers, il y faut des plumes, il y faut des couteaux pour tailler les plumes, il y faut du sable pour sécher l'écriture. C'est une technique de l'écriture qui est très liée avec le bureau, l'office, la chambre, donc une technique de l'écriture de l'intérieur. Alors que cette écriture sans encre et sans plume est une écriture plus libre qui peut être portée sur ces tablettes, comme disait la définition de l'Académie, que l'on porte ordinairement dans la poche. Et donc, du coup, permettre une écriture très libre sur la place publique, dans l'espace ouvert, lorsque l'on marche, et qui aussi, suppose, permet cet effacement et réécriture. Ce n'est pas dans les définitions françaises, mais ça l'est dans les objets avec lesquels nous avions commencé cette recherche, qui sont des objets anglais ou espagnols, et où l'on peut voir ce que signifie l'expression « papier préparé » que l'on rencontre déjà dans le dictionnaire de Richelet, dans le dictionnaire de Furtière ou dans le dictionnaire de l'Académie. « Papier préparé ». On peut prendre connaissance de cette matérialité avec, d'un côté, en Angleterre, les « writing tables » qui sont, entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, feuillets insérés dans des almanachs ou calendriers et où le papier préparé signifie un papier que l'on a recouvert d'une très mince pellicule, d'un très fin enduit fait de plâtre, de colle et de vernis et qui permet d'écrire avec un stylet et du coup d'effacer avec la salive ou avec un chiffon mouillé. Et on a là une série préservée dans la mesure où, pour la chance des historiens, ces feuillets avec cet enduit ont été insérés par deux relieurs londoniens à l'intérieur d'un almanach. Donc ce calendrier a été conservé dans un certain nombre de bibliothèques comme un objet imprimé, mais dans lequel on rencontre les feuillet avec cette possibilité d'écrire et d'effacer, ce qui renvoie d'ailleurs à une autre idée essentielle qui est la relation entre des objets imprimés et des surfaces pour l'écriture. Et ces writing tables en seraient un exemple tout à fait spectaculaire, puisqu'à l'intérieur d'un livre imprimé, on a des feuillets pour écrire, mais pour écrire sans encre et sans plume, avec un stylet et avec la possibilité d'effacer. Et dans le monde espagnol, on a l'équivalent avec les librillos de memoria, malheureusement peu conservées parce que n'ont pas été liées avec un texte imprimé, donc on ne les rencontre pas dans des catalogues de bibliothèques, mais les descriptions ou de très rares exemplaires, moi j'ai pu en voir un à la bibliothèque de Princeton, correspondent strictement avec les writing tables, c'est-à-dire des feuillets recouverts d'une mince pellicule et sur lesquels on écrit et l'on peut très facilement effacer. Et dans tous les dictionnaires du XVIIe siècle, on a l'équivalence entre writing tables, librio de memoria et tablette. Mais le sujet a été très peu travaillé pour la France, sans doute par la disparition des objets eux-mêmes, puisqu'ils avaient cette utilité dans l'immédiateté. Et à ma connaissance, aucun exemplaire n'a été pour le moment retrouvé ou étudié pour la France des XVIIe et XVIIIe siècles. Donc on n'a pas l'objet matériel qui correspondrait aux tablettes sur lesquelles écrit Clélie, mais elle n'écrit pas. Le texte dit « elle écrivit ». Mais en fait, ça c'est la trace de l'ancienne attente qu'elle va écrire un billet ou elle va écrire une lettre. Elle n'écrit pas, elle dessine une carte qui est la carte de Tendre. Et comme vous l'avez entendu, dans l'intrigue du roman, cette carte qui a été copiée est remise par Seller, le narrateur, à la destinataire qui est la princesse des Léontins, qui est la situation de transmission orale de l'histoire. Mais pour le lecteur du XVIIe siècle, cette figure du texte, transmission d'une carte par le narrateur à un narrateur, devient une réalité puisque le texte indique, à ces mots, Seller donna effectivement la carte qui suit cette page à la princesse des Léontins qui en fut agréablement surprise. C'est-à-dire, du coup, on voit que la situation de la fiction, Seller remettant une carte à la princesse des Léontins, devient une situation de la réalité de la lecture, le livre, Mademoiselle de Scudéry, remettant une carte qui suit cette page, donc à un endroit bien marqué dans le livre, à la destinataire, Mademoiselle de Longueville, et plus généralement à tous ceux qui ont acheté un exemplaire de la première partie de la Clélie. Voilà donc qu'il y a un jeu de reflets entre la situation de la fiction, la carte imaginée, copiée, et la situation de la communication du texte avec cette carte imprimée qui est à l'intérieur des exemplaires. Et la première carte, dont on a ici un exemple dans une gravure, une estampe, puisque la carte va aussi s'émanciper du livre et va sortir des exemplaires pour devenir une estampe séparée. Elle peut être dépliant dans le livre ou image volante, a été due à Chauveau. Elle est reprise dans l'édition que j'ai mentionnée de 1659, avec quelques retouches apportées à la première et la première carte. Et elle est expliquée par Seller à la princesse des Léontins et donc du coup par Mademoiselle de Scudéry à tous ceux qui se sont emparés du livre. Alors on commencera la séance prochaine avec l'explication de Seller à la princesse des Léontins et du dispositif qui fonctionne dans le rapport entre le texte de l'explication supposément écrit sur un billet par Clélie et d'autre part le dispositif visuel, l'organisation visuelle de cette carte dans la fiction pour nous mener à d'autres cartes et finalement aux cartes qui sont dans le Quichotte des éditions espagnoles, madrilènes, de la fin du XVIIIe siècle. Donc, nous avons une séance la semaine prochaine, le 7. Merci.